France Culture. Les nuits de France Culture.
Un loup-garou aux yeux vitreux troublait là-bas la paix des bois. Allant hurlant, malencontreux, terrifiant la belle aux abois. Ronné comme un goré goitreux, illumé, dément, les sous-bois. La lune floue l'avait rendu immonde et fort comme un Hercule. Ses poils gris et son dos tordu cachaient le naissant crépuscule. Et sous son crâne suspendu, il traînait son corps, ridicule. Gare au noir dessin malveillant, du colosse à la nuit ribaude. Prends garde à ses chemins fuyants, escarpés, puant la maraude. Fuis les grognements effrayants de cet ogre à la hargne chaude. Ce poème de Paul Claudel réunit parfaitement tous les éléments qui font du loup-garou cet être terrifiant, toujours très présent dans nos productions culturelles malgré son relatif archaïsme. Créature hybride entre homme et loup, il a pourtant tout d'une bête féroce. Le loup-garou déchiquette sauvagement ses proies dans une rage aveugle, une soif de sang qui fait froid dans le dos. Pourtant, ce qui fait sans doute sa spécificité et justifie sa persistance dans l'inconscient collectif est son aspect indétectable. Le loup-garou vit parmi nous, est un être humain comme un autre, jusqu'aux nuits de pleine lune. Une métaphore sans doute de notre animalité enfouie, présente au moins depuis l'Antiquité, chez Pline et Ovide par exemple. C'est précisément des origines de ce mythe que traite ce premier de 5 épisodes d'Histoire de loup-garou, une série de Lise Andriès pour les chemins de la connaissance. C'est le professeur d'université et spécialiste de la Renaissance Jean Séard qui vient nous parler de la naissance du texte lycanthropique, dans cette émission diffusée pour la première fois le 25 novembre 1991 sur France Culture.
Pendant la nuit, tandis que j'étais lourd de sommeil, il s'apprête à me surprendre et à me donner la mort. Voilà par quelle épreuve il voulait connaître la vérité. Ce n'était pas encore assez pour lui. De son glaive, il coupe la gorge à un des otages que lui avait envoyé le peuple des Molosses. Ensuite, il attendrit dans l'eau bouillante une partie de ses membres palpitants et il fait rôtir l'autre sur la flamme. À peine en avait-il chargé la table que de ma foudre vengeresse, j'ai renversé sur lui sa demeure, pénate bien digne d'un tel maître. Épouvanté, il s'enfuit et après avoir gagné la campagne silencieuse, il se met à hurler. En vain, il s'efforce de parler. Toute la rage de son cœur se concentre dans sa bouche. Sa soif habituelle du carnage se tourne contre les troupeaux et maintenant encore, il se plaît dans le sang. Ses vêtements se changent en poils, ses bras en jambes. Devenu un loup, il conserve encore des vestiges de son ancienne forme. Il a toujours le même poil gris, le même air farouche, les mêmes yeux ardents. Il est toujours l'image de la férocité.
Un loup-garou est quelqu'un, homme, femme ou enfant, un homme le plus souvent, qui prend l'apparence d'un loup volontairement ou involontairement à la suite d'une malédiction par exemple, et qui possède alors toutes ses caractéristiques, les appétits bestiaux, la férocité, le goût du sang, la force brutale. Cette métamorphose peut être partielle, créant un monstre, un être hybride avec le corps d'un homme et le visage couvert de poils, avec une mâchoire de bête et des mains griffues, ou bien la métamorphose est totale, l'aspect humain disparaissant complètement. Mais de toute façon, la caractéristique de cette métamorphose est d'être réversible. Le loup-garou, reprenant l'apparence humaine, soit à la suite d'une blessure, soit au terme de la malédiction, soit par divers procédés liés aux conditions de la métamorphose. Il retire sa ceinture de peau de loup, il se plonge dans une rivière, il se sert d'un onguent spécial, etc. Plus souvent encore, la métamorphose se produit à la tombée du jour, entre chien et loup, comme le dit si justement la langue, et le loup-garou redevient homme au soleil levant. Quoi qu'il en soit, le thème est très ancien. Pline évoque déjà des légendes grecques de héros transformés en loups. Ces glissements d'un règne à l'autre, loin d'être scandaleux, illustrent alors la familiarité de l'homme avec la nature et la continuité de la chaîne des êtres qui s'élève de l'animal au divin. Dès l'Antiquité, le merveilleux semble tendre au magique, de l'être surnaturel, mi-homme, mi-bête, à la sorcière. Le thème est universel également. Il existe des loups-garous dans la tradition chinoise, dans la culture chamanique de Sibérie et chez les Indiens d'Amérique du Nord. Mais la perspective de cette série d'émissions concerne avant tout le domaine européen et la manière dont cette figure inquiétante a pu évoluer depuis l'Antiquité jusqu'à sa récente réincarnation au cinéma, preuve de la vitalité du thème et de son pouvoir fantasmatique, perceptible encore dans la société contemporaine. Il est certain que le loup-garou ne correspond pas à une métamorphose animale comme les autres. S'il existe dans les croyances anciennes d'autres créatures hybrides, des hommes-ours, des femmes-chattes, des vaches-garous et même des loutres-garous comme les désignent les contes, le loup-garou, lui, est l'incarnation du mal absolu et de la violence sanguinaire, un être d'épouvante qui hante les frayeurs et les rêves des hommes jusqu'à devenir une partie intégrante de son imaginaire. Jean Séard, vous enseignez la littérature de la Renaissance à l'Université de Créteil et vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur la nature et les prodiges, L'insolite au XVIe siècle, paru chez Droz. Quelle est la définition du loup-garou ?
Le loup-garou est, par définition, je crois, un être de double nature, loup et homme, et les deux à la fois et les deux concurremment, si l'on peut dire. Et cela s'observe déjà dans l'étymologie même du mot. Il n'y a pas de doute que le mot vienne du francique « warilouf », l'homme-loup, on voyait l'allemand « werwolf ». Et le mot même de loup-garou comprend ainsi deux fois la notion de loup et une fois la notion d'homme, ce qui d'une certaine manière le caractérise, je crois, assez bien. Quand le mot passe dans les autres langues que les langues germaniques, on le voit se maintenir avec différentes variantes, loup-verrou, loup-varou, loup-garou, loup-brou, etc. Et, chose amusante, ce terme qui n'est plus compris est souvent réinterprété. C'est le loup dont il faut se garer ou se garder. Et comme toujours, puisque l'on a deux sens, il faut avoir deux réalités. Souvent, le loup-garou désigne ainsi une variété particulière de loup. Celui qui, à force de manger de la viande, est devenu spécialiste de la viande humaine et ne mange que des hommes ou cherche à manger des hommes. Alors celui-ci s'appelle, dans les traités de chasse, couramment le loup-garou.
Alors, on a entendu tout à l'heure un extrait des Métamorphoses d'Ovide, où il est question de la punition infligée par Zeus à Lycaon. Dans quelle mesure ce récit vous semble-t-il intéressant du point de vue de la constitution du mythe ?
Il faut d'abord rappeler que Lycaon est un héros arcadien, le fils de Pélasgos. La légende lui donne d'ailleurs 50 enfants, dont la plupart sont des héros éponymes de villes du Péloponnèse. Autrement dit, un héros qui apparaît comme fondateur et civilisateur. Le mythe lui-même connaît plusieurs versions. Celle d'Ovide est sans doute la plus répandue, mais il y en a d'autres. Certaines font de lui un roi très pieux, comme son père, et un roi souvent visité par les dieux, comme les rois pieux. Et en ce cas, ce sont ses fils, comme s'il y avait tout de suite une dégénérescence à la deuxième génération, qui organisent le subterfuge raconté par Ovide, de sorte qu'un orage terrible foudroie les coupables, mais sans qu'il y ait dans ce cas transformation en loup. Le plus souvent, c'est la version d'Ovide, un roi impie qui domine, avec d'ailleurs plusieurs variantes, celle d'Ovide, et puis une autre où Lycaon est foudroyé, puis ses enfants l'un après l'autre, il faut que la terre, c'est intéressant, Gaïa, intervienne pour en sauver un, Nyctimos, qui succédera à son père sur le trône.
Parce que ce que dit le texte d'Ovide, c'est qu'ensuite Zeus déclenche le déluge sur la
Parfaitement.
Terre.
Parfaitement. Et cela est un trait très important. L'histoire racontée par Ovide, c'est d'une certaine manière la première des métamorphoses dans ce livre gigantesque. Il la situe juste après la révolte des géants, qui elle-même clôt la période des quatre âges et introduit à l'âge de fer, c'est-à-dire à la période où les hommes, livrés à leur propre méchanceté, vont devoir apprendre par eux-mêmes, s'ils le peuvent, à organiser leur vie sans le secours des dieux. Alors Jupiter, qui vient de vivre l'aventure dans laquelle Lycaon est engagé, convoque les dieux, résolu à anéantir le genre humain. Et il est allé voir Lycaon pour vérifier, c'est déjà un test, pour vérifier l'exactitude des bruits alarmants qui courent sur la méchanceté humaine. C'est après que se place l'épisode du déluge. Autrement dit, c'est bien un récit de fondation. Et que le héros soit un Arcadien est intéressant. Pour les Grecs, Arcadiens, Pélages, etc., étaient considérés comme les premiers peuples. Les peuples qui d'ailleurs vivaient avant que la lune n'apparaisse. Les peuples antécélénites. Et c'est aussi intéressant qu'il place à l'origine une horrible perversion, qui est d'une certaine manière le commencement de l'histoire. Si on regarde du côté de Rome, c'est encore un loup qui est engagé dans l'affaire, ou plutôt une louve, puisque Romulus et Rémus sont nourris par une louve. En outre, Lycaon est à la fois homme et loup dans l'histoire d'Ovide. La cruauté qu'il a caractérisée auparavant subsiste physiquement dans le loup qu'il est, notamment dans l'ardeur inquiétante de son regard et dans certains de ses gestes. Je crois que tout cela montre bien qu'il y a là un récit fondateur dans lequel Ovide a juste oublié de mentionner un trait que l'on connaît par d'autres textes, par Pline, par Saint-Augustin, etc., où le fait de devenir loup apparaît non pas seulement comme un châtiment, mais comme une épreuve. Et une épreuve intéressante parce qu'elle engage tout de suite l'anthropophagie. Si on regarde le texte raconté par Pline, il est très intéressant. Il dit qu'en Arcadie, il y avait une race d'un certain Antéus, dont il faut qu'il y ait toujours un qui est figure de loup. Et ainsi, ceux de cette race, ayant jeté le sort entre eux, ayant tiré au sort, autrement dit, conduisent celui sur lequel est tombé le sort à un certain étang. Et là, le font dépouiller tout nu et pendent ses habillements à un chêne. Pendant ce temps, l'autre traverse à la nage l'étang et va aux forêts qui sont au-delà de celui-ci, où, étant, il devient loup et il demeure 9 ans loup, vivant comme les autres loups. Que si durant les 10 9 ans, il ne mange point de chair humaine, au bout du terme, il retourne à la rive de l'étang qui a été mentionné ci-dessus. Et l'ayant repassé, il prend la forme humaine comme auparavant, excepté qu'il se trouve plus vieil de 9 ans.
C'est très intéressant parce qu'on retrouve un certain nombre de ces thèmes, y compris dans la tradition orale, y compris dans les contes qui ont été recueillis par les folkloristes du 19e siècle. Il y a le fait de se déshabiller, il y a le fait de traverser les temps, et il y a surtout cette sorte de malédiction qui se passe pendant une période déterminée. Alors souvent, il s'agit de 7 ans. Et dans les versions christianisées du 19e siècle, c'est une excommunication faite par le prêtre pendant 7 ans. C'est tout à fait intéressant qu'on trouve déjà chez Pline un certain nombre de ces caractéristiques.
Pline, qui dit lui-même d'ailleurs citer un grec, et vante donc que nous sommes sûrs que l'histoire est encore plus ancienne que lui. D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans ce texte, le caractère de malédiction est moins marqué que le caractère d'épreuve. C'est un tirage au sort qui fait que dans une certaine famille, il faut que, pendant un certain temps, quelqu'un exerce, si l'on peut dire, le métier de loup. Et donc subissent cette épreuve. Très souvent d'ailleurs, la malédiction apparaît simplement comme la conséquence d'une épreuve mal réussie, mal passée, et dans laquelle on a échoué. Alors on reste dans l'état de loup, dans lequel on devait séjourner transitoirement pendant 7 ans ou 9 ans, selon les histoires. Mais c'est d'abord visiblement une épreuve. L'homme sera-t-il au fond capable de s'arracher à sa tentation sauvage d'anthropophagie et à s'installer dans l'humanité, on pourrait dire.
Et est-ce que vous pensez à d'autres récits où on est encore plus du côté d'une épreuve ou d'une sorte de rituel que du côté d'un châtiment, où l'on trouverait des personnages qui partagent leur vie finalement entre le monde civilisé et le monde de la nature?
Il y en a un exemple tout à fait intéressant qui est le lait de Marie de France, le Bisclavret, dans lequel on voit très clairement un personnage qui est alternativement loup et homme, sans que d'aucune manière son état de loup corresponde à une malédiction ou à un châtiment.
Ou à une souffrance,
finalement. Ou à une souffrance, oui. Il est alternativement l'un et l'autre. Simplement, ces deux états sont visiblement liés entre eux. Ce qui est intéressant, c'est peut-être au fond une version postérieure de la légende qui efface l'idée d'épreuve ou l'idée de malédiction, puisque pour redevenir homme, il a besoin non seulement de reprendre des vêtements, mais de reprendre ses vêtements à lui, comme si au fond les vêtements avaient été pendant un certain temps la métaphore de sa condition d'homme, une sorte d'autre peau.
Des vêtements que sa méchante épouse lui a volés.
Voilà, et qui l'empêche de revenir à son état.
Jean Séard, à propos du récit de Lycaon, vous avez évoqué l'Arcadie. Avez-vous le sentiment que le mythe, si on peut appeler cela un mythe, le mythe du loup-garou, ou en tout cas l'image du loup-garou, soit lié à d'anciens cultes ?
La tradition, rapportée par Pline, mais aussi par d'autres, dit que les Arcadiens avaient l'habitude d'offrir des sacrifices humains à Jupiter Lycaeus, Lycos sans doute le loup. Et précisément à cette occasion, un événement, une aventure, rapportée elle aussi par Pline d'après le grec Agriopas, mais qu'on retrouve aussi ailleurs, dit qu'un homme, un certain Démarque ou Déménète, selon les textes, aurait profité d'un sacrifice de ce genre pour manger une partie de la victime, certains textes disent du ventre de la victime, et qu'il a été alors métamorphosé en loup. Pour le demeurer un certain temps, c'était visiblement un châtiment, puisque ensuite, il a retrouvé sa forme humaine et est même devenu un des vainqueurs des Jeux Olympiques. Donc il y a là déjà un lien, à travers la légende et l'histoire à la fois, qui est établi entre le culte de Zeus Dicien le loup-garou, une continuité. On peut en trouver une autre aussi, de façon plus obscure certainement, dans un autre culte très très mystérieux des Romains, qui est le culte des Luperques. Il y a une sorte de discordance entre ce que le nom semble signifier et la réalité. La réalité, c'était que c'était des prêtres nus, nous retrouvons notre nudité de tout à l'heure, qui faisaient le tour du Palatin, en flagellant avec des lanières faites de la peau d'une chèvre qu'on venait d'immoler, les femmes qu'ils rencontraient, et cela afin de les rendre fécondes. La fécondité est constamment liée à ces mythes. Mais si on suit le nom, deux explications possibles, ou peut-être même trois explications possibles. Les uns veulent partir de l'étymologie, lupum arcere, écarter le loup, ce serait un rite agraire destiné à écarter les loups des troupeaux. D'autres mettent en relation ce culte avec celui de Zeus Dicien dont nous parlions tout à l'heure et l'Arcadie, c'est le cas particulièrement de Saint-Augustin, et d'autres signalent que ces cérémonies avaient pour point culminant la grotte du Lupercal, celle précisément dans laquelle la louve avait élevé Romulus et Rémus, de sorte que d'une certaine manière les Luperques seraient liés au berceau même de la naissance de Rome. On a là plusieurs explications qui essayent de rendre compte d'un nom qui est devenu obscur, mais qui visiblement montre qu'il y a une continuité entre la notion de relation entre les dieux et les hommes, des sacrifices adressés aux dieux et une tentation de détourner ces sacrifices au bénéfice éventuellement de l'homme, ce qui cause sa perte. Visiblement, là encore une fois, l'anthropophagie et la consommation de viande et la dévoration de viande sont au centre de ce mythe, même si les liens avec les détails du mythe sont difficiles à interpréter et même à saisir.
Il s'agit finalement d'une double transgression parce que si l'on revient au récit de Lycaon, il y a à la fois la transgression dont vous venez de parler, c'est-à-dire le tabou alimentaire, enfin se mettre à manger de la chair humaine, c'est une première transgression, mais il y a une seconde transgression également qui est la transgression de la loi religieuse en ce qui concerne Lycaon.
Transgression de la loi religieuse dans le sens où Lycaon n'a pas respecté la relation entre les hommes et les dieux et a essayé de la fausser en donnant à un dieu qui, confiant, venait le visiter une nourriture qui, justement, marque cette transgression. Je crois que c'est ce double aspect, en effet, qu'il faut constamment marquer, mais il est intéressant qu'il soit indiqué à l'origine de la civilisation. Je crois que c'est tout à fait important, ça.
Alors, finalement, comment pourrait-on caractériser la place du loup et la place du loup-garou dans une longue tradition qui partirait de l'Antiquité et qui irait jusqu'à la Renaissance?
Cette longue tradition, en ce qui concerne la représentation du loup, me paraît avoir une constante tout à fait étonnante. Le loup a toujours très mauvaise réputation. Il est carnassier, naturellement, il est cruel, il est rusé, ce qu'une tradition plus récente, pour l'opposer au renard, lui a peut-être tiré comme caractère. Et c'est celui qui tue, par faim sans doute, mais aussi par plaisir. Et enfin, c'est volontiers un solitaire, chose très importante, s'il se trouve en meute, ce sont des attroupements de guerre, comme on dit dans les textes, beaucoup plus que par habitude de vie sociale. Un auteur du XVIe siècle, Jean Vire, l'adversaire de Bodin, le définit en des termes très intéressants. Il l'appelle le loup, bête irraisonnable, gouffre et abîme pestilentieux entre les animaux. Autrement dit, il est, d'une certaine manière, l'incarnation absolue d'une sauvagerie à laquelle on ne peut apporter aucun remède. Alors cette tradition se conserve très longtemps, puisque si l'on lit l'article « loup » qui apparaît dans le dictionnaire des sciences naturelles de Valmont de Beaumard, fin 18e, édition courante de 1800, très tard, eh bien, on lit « c'est un animal des bois, farouche et carnassier, mis par les naturalistes dans le genre du chien, dont il diffère cependant beaucoup ». Et d'une certaine manière, lui aussi va avoir son double, mais qui est en même temps son contraire, qui est le chien. Le chien, c'est d'une certaine manière l'animal qui, tout en étant animal, est passé, si l'on franchit la frontière, du côté de l'homme.
Bah, il y a même une fable de La Fontaine qui le dit très bien, très le loup et le chien.
Parfaitement. Mais on pourrait chercher d'autres textes auparavant, Platon dans La République, qui, parlant du chien philosophe, indique qu'il faut à l'homme de garde un caractère particulier qui demande beaucoup de vigueur d'esprit, puisqu'il doit être cruel à l'égard des étrangers et extrêmement tendre et doux à l'égard des gens de l'intérieur. C'est un être qui est placé à la limite et en qui se réunit une espèce de sauvagerie et en même temps d'humanité. Au fond, quelqu'un qui aurait domestiqué sa sauvagerie pour la mettre au service de l'humanité. On a cet aspect-là. Alors, les textes sont fréquemment soucieux d'indiquer à quel point le chien et le loup, malgré leur ressemblance, ne se ressemblent pas. Leur ressemblance est manifestée par le proverbe que vous rappeliez tout à l'heure entre chien et loup, c'est-à-dire l'heure de la journée à laquelle on ne peut pas, à distance, savoir si on a affaire à un chien, à un loup ou un loup. C'est l'étymologie traditionnelle, l'explication traditionnelle de ce proverbe. Mais il est souvent dit, je cite encore Valmont de Beaumard, que malgré une ressemblance physique presque entière entre le loup et le chien, on ne peut guère trouver de dissemblance morale plus grande et plus directement opposée que celle qui se manifeste entre eux quant au naturel. Et alors on va indiquer que le loup est évidemment capable de se jeter même sur des êtres qu'il connaît alors que le chien sait faire la différence, d'autre part, il est capable aussi de se tenir à l'orée du bois et de se jeter sur vous, toujours du côté de la forêt, alors qu'au contraire le chien patrouille à distance, etc. Et d'ailleurs qu'il y a une inimitié violente entre le chien et le loup.
Mais alors moi ce qui me paraît frappant dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement le loup, comme le loup-garou d'ailleurs, est un être de lisière. Il est à l'orée du bois, on est entre chien et loup. C'est le moment de la journée précisément où Jean Grenier, un des personnages qui sera arrêté à la fin du XVIe siècle, ou plus exactement au début du XVIIe en 1603, parce qu'il est considéré comme loup-garou, c'est le moment où il dit qu'il va courir sous forme de loup-garou. Il me semble qu'il y a là un rapprochement possible entre certains moments de la journée, certains moments de la nuit aussi, et la métamorphose.
Oui, parfaitement. Le loup est associé en effet à la tombée du jour, et son règne est sans doute la nuit, mais le loup-garou aura pour règne précisément la période qui sépare le jour de la nuit, cette période très rapide, très incertaine, mais qui est celle où tout bascule, incontestablement. Alors, dans la tradition, le loup est très fortement lié à la nuit. Ça, incontestablement. Il y a d'abord quelques proverbes rares, mais quelques-uns qui le lient à la lune. Par exemple, le proverbe « Gardez la lune des loups », que Dieu préserve la lune des loups, comme si le loup qui hurlait à la lune avait envie de la saisir entre ses dents.
Je pense aussi au conte populaire du loup qui dévore la lune. Mais c'est peut-être un conte qui a une valeur d'exorcisme parce que le loup est présenté comme très bête dans cette histoire, de même d'ailleurs que dans la plupart des contes où il est associé au renard.
Alors que la tradition ne présente jamais le loup comme bête, hein, pas du tout, pas du tout, au contraire. Je crois que là, il s'est fait plus tard un partage entre certains animaux et que d'une certaine manière, exorciser le loup, c'était le rendre bête.
C'est ça, c'était c'est une ce manière que je pense. De se débarrasser de lui. Oui, tout à fait.
La tradition, au contraire, n'insiste pas du tout sur cet aspect. Elle lui prête des aptitudes à la ruse, qu'on voit très bien dans les traités de vénerie, sur les difficultés de chasser un loup et toutes les ruses qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à triompher de lui. La façon de placer des proies pour l'attirer, de prendre des distances, de donner l'impression qu'on est absent, d'effacer les brisés, etc., montre bien qu'on a affaire à un être extrêmement rusé dans la tradition.
Mais alors, quel est le rapport avec la pleine lune? Parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, dans le discours le plus récent, celui du 19e siècle, et surtout quand il s'agit du loup-garou tel qu'il est traité au cinéma, c'est un élément qui intervient très très souvent. Alors, pourquoi cette association avec la pleine lune? Et est-ce que vous la rencontrez déjà dans les textes anciens?
Ah, je crois en particulier dans les traités médicaux, dans les textes médicaux, dans Galien, mais dans bien d'autres textes, c'est très frappant. La lune, traditionnellement, c'est l'astre humide qui régit les humeurs du corps. Et d'autre part, l'astre qui apparaît la nuit. Autrement dit, qui est lié plus particulièrement à une des humeurs du corps, qui est la mélancolie, cette humeur noire. À partir de là, on voit se développer toute une alliance entre le loup et la lune qui tient, je crois, à ce rapprochement. On appelle lunatique dans la tradition médicale les épileptiques, c'est-à-dire ceux justement chez qui l'humeur noire, devenant perverse, s'est transformée en cette maladie épileptique. Le mélancolique, d'autre part, est couramment un solitaire dans la tradition, ce qui le rapproche fortement de nos loups-garous et simplement des loups tout court. Il y a un texte amusant du XVIe siècle, problème que se pose un traducteur pour rendre un mot trop savant qui est le mot de misanthrope. Et il trouve comme traduction loup-garou, c'est Amyo, traduisant la vie d'Alcibiade, parlant de Timon, Timon le misanthrope, et qui écrit « Timon, celui qui fut surnommé misanthrope, comme qui dirait loup-garou ou haïssant la compagnie des hommes. »
Vous pensez qu'Alceste de Molière est une sorte de loup-garou?
Il pourrait l'être, bien que le texte là insiste sur son humeur mélancolique. Cela dit, c'est pas tout à fait un mélancolique, c'est un atrabilaire. Distinction que le XVIIe siècle fait franchement. En revanche, on peut trouver des textes plus anciens qui incarnent parfaitement ce personnage jusqu'à lui donner son nom, c'est Rabelais, qui dans le Pantagruel donne comme adversaire à Pantagruel, chef des ennemis par excellence, les Sarrasins, mais qui ne sont plus tellement des Sarrasins, le héros loup-garou. Et il y a le célèbre combat de loup-garou et de Pantagruel. Alors quand on voit dans le milieu de Rabelais ce que peut représenter le mot de loup-garou, il suffit de voir le nom qu'il donne à ses adversaires. Ce sont des misanthropes ou encore des agélastes, des gens qui ne savent pas rire. Alors le loup-garou ne sait pas rire, il se contente de hurler.
C'était Histoire de loup-garou à l'origine du mythe, le premier de 5 épisodes d'une série de Lise Andriès pour les chemins de la connaissance, avec Jean Séard, dans une émission diffusée pour la première fois le 25 novembre 1991 sur France Culture. À suivre.